pluriel, animé par Loïc Barrière.
Pluriel avec au banc Al Jibouri, candidat Europe Écologie Les Verts, Génération et PRG lors de l'élection législative partielle dans la 5e circonscription de la Seine-Maritime. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, au banc Al Jibouri, 8 candidats sont en lice pour cette élection. Avant de parler de votre candidature, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre parcours personnel, professionnel ?
Donc, je m'appelle Auban Jibouri, je suis, comme nous le rappeler, candidat à l'élection législative partielle de la 5e circonscription de Seine-Maritime, qui se tiendra le 20 et 27 septembre. Donc, je suis un candidat soutenu par Europe Écologie Les Verts, Génération et les Radicaux de Gauche. Je suis actuellement élu au conseil municipal de la ville du Houlme depuis mars 2020 et militant au mouvement Génération depuis 2017. Donc mon parcours, j'ai grandi dans un milieu populaire et j'ai connu et côtoyé la précarité, notamment durant toute ma jeunesse. C'est ce qui m'a donné en fait envie de m'impliquer et de militer et de combattre les inégalités que j'ai pu côtoyer tous les jours. Et aussi de cette volonté de préserver l'environnement qui se retrouve actuellement dans mon travail de tous les jours. Actuellement, je travaille en tant que chargé d'études dans l'environnement, donc dans la gestion de l'eau et la préservation de la ressource en eau, sur une rivière qui se situe à la frontière entre la Somme, la Seine-Maritime et l'Oise. L'objectif, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur cette ressource et d'essayer de concilier toutes les personnes pour éviter que des impacts négatifs n'aient lieu sur la rivière, sur l'environnement, sur la ressource et sur la qualité surtout de l'eau qui va être distribuée par la suite aux personnes. Mais ce qui explique en fait, on va dire, cette candidature, c'est vraiment que derrière, j'ai eu toute une réflexion personnelle en fait depuis plusieurs années. Comme je vous le disais, justement, c'est cette connaissance de la précarité, cette la vision que j'ai en fait de tous les jours dans mon travail, de l'environnement qui se dégrade, de la culture du compromis en fait entre les industriels par exemple qui peuvent abîmer l'environnement et les élus locaux qui vont être réceptifs au chantage en emploi que peuvent faire finalement les industriels, qui m'ont amené justement à porter ma candidature, puisque derrière, en fait, c'est vraiment la question qui me taraude depuis toujours, c'est de savoir quel monde je veux laisser pour mes enfants et dans quel monde mes enfants vont pouvoir grandir. Est-ce que c'est un monde qui va être vivable ou un monde invivable? Quelle chance je leur laisse, en fait? Quelle chance je leur donne? Donc c'est pour ça que je me suis saisi, en fait, de cette opportunité de me présenter à cette élection, parce que je me dis que face à l'urgence climatique, et il faut agir, et il faut agir tout de suite. On ne peut pas laisser encore 2 ans, on ne peut pas attendre indéfiniment que les choses soient faites. Il faut passer de la parole aux actes. Et quand on voit qu'actuellement, notamment la canicule qu'on s'est prise cette semaine, l'augmentation des températures non-stop, chaque année est de plus en plus chaude au niveau mondial. Chaque année, on bat des records de chaleur. On est face à des phénomènes de plus en plus violents, des sécheresses qui augmentent. On a un taux de pollution et d'incidence sur les personnes qui est assez importante. On a quand même 800 000 morts chaque année en Europe, de manière des morts anticipées. Des personnes qui n'auraient jamais dû mourir aussi jeunes, aussi rapidement, de causes aussi bateaux que... de causes comme des cancers ou autres. Et finalement, on se retrouve dans des situations assez extrêmes. Donc il faut agir. Et il faut pour cela un député qui soit proche des habitants. Un député, et c'est ce que je veux incarner, un député qui se rapproche du terrain et a l'habitude d'aller sur le terrain, comme je le suis via mon travail, proche des habitants, proche des enjeux, proche des problématiques, et qu'il faudra faire remonter ces problématiques-là à l'Assemblée pour se battre, pour faire entendre la parole du territoire et pour se battre pour le bien commun.
Au banc Al Jibouri, est-ce que vous pouvez nous présenter votre circonscription? Elle comprend des villages, des zones rurales, et puis aussi des villes, et aussi des zones industrielles.
Tout à fait, oui. C'est un territoire vraiment magnifique et riche de sa diversité, à la fois culturelle, patrimoniale et environnementale. On peut passer en fait de secteurs assez urbains, comme la périphérie de la métropole de Rouen, à des secteurs très ruraux. Cette alliance, en fait, ce jeu entre les divers, de la diversité en fait, de ce territoire donne une force aussi. On a un tissu économique important, mais qui reste fragile et qui a été fragilisé à cause du Covid notamment, qui a encore plus fragilisé finalement ce tissu économique qui repose énormément sur du commerce, sur la grande distribution qui a été quand même assez impactée et grandement impactée même par cette crise. On a des secteurs touristiques assez importants, comme l'abbaye de Jumièges notamment, qui est assez connue comme étant la plus belle ruine de France, selon certains auteurs romantiques. Nous sommes aussi dans un territoire où on a un parc naturel régional des Boucles de la Seine, qui préserve justement cet environnement magnifique avec les coteaux de Seine, les bords de Seine, les marais qui se trouvent sur les bords de Seine. Et tout cela, en fait, ça constitue un territoire qui est très varié, très diversifié, très beau, et malheureusement, c'est un territoire qui a, dès ces dernières années, été délaissé par les gouvernements, par les services publics, notamment, si je peux prendre un exemple, les gares, la problématique des gares qui se pose énormément. On a des gares qui sont encore présentes sur le territoire, mais qui sont de plus en plus mal desservies. On n'a plus de personnel dans ces gares, donc plus de possibilités pour les personnes qui ne sont pas connectées, donc là, à Internet, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un smartphone, qui ne savent pas les utiliser, de commander un billet sur Internet. Pour peu que les bornes qui ont été mises dans ces gares ne fonctionnent pas, ces personnes-là se retrouvent à ne pas pouvoir embarquer ou à être potentiellement en fraude. On a aussi des problématiques sur les horaires de la poste. Enfin, c'est des choses, en fait, les services publics ont vraiment été de plus en plus mis au rebut et ces services se délitent au fur et à mesure. Heureusement, derrière, comme je disais, c'est un territoire riche de sa diversité et aussi fort de cela, on a un tissu associatif qui vient pallier ses défauts. Et par exemple, hier, j'ai visité une association qui s'appelle l'APCA, qui est une association qui est basée sur Pavie et qui travaille à l'insertion de personnes éloignées de l'emploi et ces personnes, en fait, trouvent via cette association une possibilité de se réinsérer, de regagner confiance en eux, en fait, via cette proposition de travail. Ils travaillent à trier du papier, du carton et à les différencier pour pouvoir après les mettre en valeur et les revendre à des recycleurs.
Alors, Auban El Djibouri, quelles seront vos priorités, cette fois, sur le plan national, si vous êtes élu député, le 20 ou le 27 septembre prochain ?
Alors, mes priorités vont être multiples et en même temps vont être claires, c'est-à-dire que je veux porter une vision vraiment et réellement écologique et solidaire à l'Assemblée. Cela passera, bien entendu, par la mise en place réelle d'une transition écologique. J'appuie bien sur le réel, puisqu'on est beaucoup dans les effets de communication avec ce gouvernement qui parle tout le temps d'écologie, mais ne fait rien dans la réalité, ou pas suffisamment, en tout cas. Cette transition écologique, ça passera, bien entendu, par tout un travail sur les énergies renouvelables, sur les énergies du futur, à développer justement la compatibilité entre les énergies qui produisent en non-stop et des énergies qui produisent comme les éoliennes sur des temps courts ou des temps qui ne sont pas forcément pérennes sur une durée d'une journée. Ça va dépendre de la capacité du vent et autres. Donc il y a un couplage à trouver entre les diverses énergies. Donc ça, c'est un gros travail à engager. Il va falloir aussi, ce que je porterai, ma priorité absolue par rapport à ce que nous avons connu justement en Seine-Maritime. Vous avez tous entendu parler, je pense, de Lubrizol sur notre secteur, sans vouloir appuyer trop dessus. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail sur la sécurité industrielle et la culture du risque à mener, parce que on voit bien qu'en France, cette culture du risque et cette sécurité industrielle est déficiente. Elle est déficiente sur deux points. C'est-à-dire que la sécurité industrielle, pour avoir une réelle sécurité, il faut avoir du personnel pour pouvoir la faire, pour pouvoir faire de la veille, pour pouvoir aller faire des inspections, pour pouvoir aller vérifier que les industriels respectent bien les réglementations qui leur sont imposées. Le problème, c'est que les personnels ne sont plus dans les services publics, il n'y a plus suffisamment de personnes, donc les inspecteurs ne peuvent pas être partout à la fois. Derrière, je parlais aussi de la sécurité, de la culture du risque, c'est-à-dire qu'on a bien vu dans la situation de crise que nos élus, la population et l'ensemble des personnes qui géraient cette crise n'étaient pas formés ou n'étaient pas en capacité de gérer correctement la crise. Il y a eu un problème de communication, il y a un problème d'information, il y a eu un problème d'alerte de la population qui a été criant, et c'est des choses qu'il va falloir retravailler. Derrière, comme je disais, c'est la question du service public dont je parlais tout à l'heure, le service public qu'il va falloir réinvestir au niveau local, donc remettre des services publics de proximité, réinvestir dedans, c'est pas uniquement préserver les services publics, mais les réinvestir, leur redonner les moyens d'agir, pour que tout un chacun ait accès à des services de qualité, peu importe l'endroit où il se trouve sur le territoire. On n'a pas lieu d'avoir 200 km à faire pour aller trouver une maternité, on n'a pas lieu d'avoir 40 ou 50 km à faire pour trouver une poste qui soit ouverte matin et soir. Donc c'est des choses qu'il va falloir refaire et revoir. L'autre priorité, c'est bien entendu la lutte contre la précarité et la possibilité à tout un chacun de choisir et d'être libre de son choix de sa vie, en fait, d'être maître de sa vie. Donc ça passera par la mise en place d'un revenu universel dans un premier temps, que j'envisage étendu dans un premier temps surtout aux populations de moins de 25 ans, puisque ces populations-là n'ont pas le droit au RSA. Elles peuvent se retrouver, comme je me suis retrouvé dans cette situation-là, à la fin des études, du fait d'une rupture familiale, dans des situations où ils se retrouvent dans une précarité totale, à n'avoir aucun droit au RSA, donc, puisqu'ils ont moins de 25 ans, à ne pas pouvoir bénéficier de quoi que ce soit de la part de l'État. C'est vraiment une question qui devient de plus en plus importante, ce revenu universel, puisque ça permettra aussi d'atténuer les effets et les impacts négatifs que peuvent avoir une crise, comme nous l'avons vu, crise sanitaire, et la crise écologique à terme.
Vous pouvez espérer convaincre la majorité, La République En Marche, d'expérimenter ce revenu universel ?
Alors, j'ai espoir que oui, je me dis qu'ils ont quand même un soupçon d'humanité derrière, enfin je pense quand même qu'ils sont humains quoi derrière, donc que la question devient de plus en plus prégnante, de plus en plus présente dans le débat politique. On le voit bien, il y a des pays comme l'Allemagne qui vont l'essayer, le tester sur une portion de la population. C'est des choses qui, en Espagne aussi, ont été discutées suite justement à la crise sanitaire. Je vois pas en fait pourquoi en France on ne le testerait pas en fait. Dans la réalité, on a vu que là où ça a été testé, ce revenu universel, ça a apporté une solution notamment à la précarité et ça a permis à des gens de valoriser aussi du temps qui n'est pas forcément comme on le considère dans notre société, du temps de travail effectif. C'est-à-dire que quand vous êtes par exemple en train de faire du bénévolat, vous vous en consacrez aux arts, que vous êtes là à élever vos enfants, ce temps-là n'est pas comptabilisé, n'est pas reconnu par la société. Et ce revenu universel permet de le reconnaître et permet de valoriser ce travail, j'aime pas dire ce mot-là pour ça, mais de valoriser ce temps consacré aux autres. Et c'est quelque chose que je pense et j'espère pouvoir amener dans ces 2 ans de mandat pour qu'on puisse enfin avoir une solution, notamment à la précarité des moins de 25 ans dans un premier temps, et puis de l'ensemble des populations qui peuvent être soumises à ces problématiques-là.
Auban El Jibouri, vous réclamez également un moratoire sur la 5G comme plusieurs élus écologistes ?
Alors oui, dans l'état actuel des choses, on va dire que le principe de précaution, à mon sens, s'applique. C'est-à-dire qu'on n'a pas ou peu d'éléments qui prouvent la non-dangerosité en fait, de cette technologie. Mais même au-delà de ça, on va dire que cette technologie-là, dans l'immédiat, est une aberration écologique. On parle toujours de sobriété écologique, on parle toujours de ces questions d'économie, de respect de l'environnement, mais on sait très bien que cette technologie, si elle est déployée, ça va nécessiter que tout un chacun renouvelle ses appareils, qu'on renouvelle l'ensemble des terminaux, qu'on renouvelle l'ensemble des infrastructures donc ça va consommer énormément de matières premières. Votre téléphone portable, par exemple, smartphone et autres, il sera à mettre au rebut, donc ça va être de l'obsolescence programmée qui vous affectera, vous serez obligé de le changer, donc ça aura un coût pour vous, bien entendu, et ça va générer énormément de déchets, dont on ne sait pas forcément comment les recycler. C'est au-delà de l'aspect principe de précaution, il y a vraiment cette question d'enjeu écologique derrière et de coût écologique. À savoir, en fait, si cette course, la course sans fin qu'on mène, en fait, à la technologie, a un sens à un certain moment. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre la part des choses. Il faut savoir si le jeu en vaut la chandelle. Et puis, je voulais dire aussi que, avant même de déployer une nouvelle technologie, on n'a toujours pas fini de déployer la précédente. C'est-à-dire, par exemple, la fibre n'est toujours pas déployée sur l'ensemble du territoire français. Mais on est déjà en train d'anticiper de commencer à déployer quelque chose d'autre. D'encore plus puissant, d'encore différent, vous me direz que c'est pour les téléphones portables cette fois. Mais si on prend l'exemple d'un 4G, tout le monde n'est pas encore couvert. On est toujours dans une course perpétuelle vers l'avant, sans forcément avoir fini les étapes précédentes.
Auban El Jibouri, sur la question des violences conjugales, est-ce qu'il faut aller plus loin que le Grenelle organisé l'année dernière ?
Alors tout à fait, oui. Actuellement, et pour avoir discuté notamment avec des associations féministes et des associations de défense des victimes, ce qui manque encore cruellement, c'est des places d'hébergement d'urgence. Alors, il y a eu des annonces du gouvernement, malheureusement, ce dans ces associations, ça ne s'est pas encore traduit totalement dans les faits. Donc, ces places d'hébergement doivent être vraiment mises en place et multipliées parce que les chiffres qui ont été annoncés ne sont pas suffisants. Il y a un gros travail aussi encore à faire sur la formation des forces de l'ordre pour qu'elles sachent correctement accueillir les victimes, les mettre en confiance et leur permettre d'exprimer vraiment leur crainte et qu'elles n'aient pas en fait cette peur de ne pas être reçues par la police ou d'être jugées en fait du style pourquoi en fait c'est la question que la victime peut se poser en fait, c'est qu'il y a la crainte qu'elle peut avoir, c'est que les personnes vont la juger, si ça fait plusieurs années malheureusement qu'elle subit des violences conjugales, elles ont une crainte peut-être mal reçue, elles ont une crainte surtout des questions d'emprise en fait de leur partenaire qui leur permet pas forcément d'aller déposer plainte toute seule.
Sur la question du handicap, qu'est-ce que vous proposerez notamment pour les enfants qui n'ont pas toujours les adultes formés pour les accompagner à l'école?
Là encore, il faudra parler et passer des paroles aux actes. C'est-à-dire que le gouvernement a fait beaucoup d'annonces sur le sujet. Malheureusement, encore une fois, ça n'a pas été totalement traduit sur le terrain. Là encore, il manque de structures d'accueil pour les enfants handicapés. Il manque aussi de place dans les écoles et de personnel pour pouvoir les accompagner. Ces personnels, en fait, ne sont pas forcément suffisamment formés ou ne sont pas forcément suffisamment reconnus. Ils sont, pour prendre l'exemple, ma mère est AESH. Elle travaille justement avec des élèves en difficulté. Elle les accompagne tous les jours. Mais pour parler de ce sujet-là, en fait, c'est des personnels qui sont soumis à énormément de précarité. Il n'y a pas de reconnaissance vraiment de leur travail. Elles ont, par exemple, et ma mère a enchaîné 6 CDD avant d'être passée en CDI. Elles sont payées les 3/4 du temps très très faiblement, le moins possible, on va dire. Et c'est vrai que c'est ce manque de formation, ce manque de reconnaissance en fait de leur travail, de l'investissement que ça nécessite, n'aide pas non plus, je pense, à recruter. Pour autant, il y a un réel besoin de personnel pour accueillir les enfants qui sont en difficulté. Et c'est quelque chose qu'il va falloir porter à l'Assemblée. Il va falloir vraiment intervenir là-dessus. Mais c'est toujours en lien, en fait, ce manque de services publics. Et surtout, ce manque d'implication de l'État. Parce que derrière, comme je le dis depuis tout à l'heure, on est toujours dans des effets de communication. On annonce des enveloppes, on annonce des moyens qui vont être alloués. Mais derrière, sur le terrain, les personnes ne constatent pas la réalité. Et c'est cette déconnexion qui pose problème et qui génère aussi du ressentiment vis-à-vis des gouvernants.
Merci Auban Al-Jibouri. Je rappelle que vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts Génération et PRG lors de l'élection législative partielle dans la 5e circonscription de la Seine-Maritime, scrutin qui se tient le 20 et le 27 septembre. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.